Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Un épisode ce matin consacré à Valérie Pécresse, la candidate de LR qui a traversé ces dernières semaines une passe difficile, une phase de doute, en tout cas qui a marqué sa campagne et dont on a peut-être vu les effets dans l'opinion puisque les sondages sont plutôt orientés à la baisse ces dernières semaines. Certains la placent même 4e ou 5e dans les sondages d'opinion. Peut-elle encore inverser la vapeur, reprendre la main et se rapprocher de la barre du second tour dans les quelques semaines qui viennent, puisqu'on est désormais à moins d'un mois du premier tour. On en parle avec Alexis Cuvillier, qui suit pour le service politique de BFM TV la campagne de Valérie Pécresse, qui la suit partout, puisque nous sommes le vendredi 11 mars, nous sommes à 44 jours du choix des Français. Salut Alexis. Alors tu passes beaucoup de temps à suivre Valérie Pécresse, tu la suis partout depuis plusieurs mois maintenant, sur le terrain, tous ses déplacements partout en France, à l'étranger, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans de précédents épisodes. C'est pas une exagération de dire qu'elle traverse ou qu'elle a traversé ces dernières semaines une mauvaise passe dans sa campagne, elle est même donnée dans certains sondages à la 5e place, donc loin d'une qualification au second tour et loin de son ambition d'être élue à l'Élysée. Comment est-ce que tu penses qu'elle a vécu ces dernières semaines difficiles, pour résumer, depuis son meeting du Zénith?
C'est certain qu'elle a traversé une période difficile dans sa campagne. On a vu très clairement que les sondages ont montré qu'elle avait un peu décroché dans l'opinion, même si il y a eu des sondages qui étaient un peu moins mauvais, notamment au moment de l'entrée du début du conflit entre la Russie, oui, et l'Ukraine. Mais c'est vrai que elle a traversé une période difficile parce qu'il y a eu le retour du doute dans sa famille politique. Oui. Ça a été quelque chose de très fort dans les jours qui ont suivi le meeting du Zénith, la dernière fois qu'on avait évoqué ensemble sa campagne. Et puis l'impression aussi que pour elle, malgré toutes les tentatives de reprendre un peu la main, ça ne fonctionnait plus. Quelques jours après le meeting du Zénith, il y a eu cet épisode qui était assez intéressant pour nous à suivre. C'était le meeting du Canet. Ce moment où elle revenait sur
scène. Qu'on avait diffusé aussi en direct sur BFM TV. Ouais.
Exactement, ce moment où elle remontait sur scène, elle était de retour dans une salle qui n'était pas comparable avec celle du Zénith, mais tout de même où il y avait environ 3000 militants dans les Alpes-Maritimes, donc en terre plutôt acquise aux Républicains. Elle fait une prestation qui, de l'avis des observateurs dans son camp politique et même ailleurs, est plutôt réussie. Elle est plus naturelle, elle n'est pas derrière un pupitre, elle se déplace sur la scène. Et vraiment à la fin de cette prestation, si je puis dire, les parlementaires républicains, les élus républicains qui sont dans la salle nous disent on est satisfait, enfin on est rassuré, retrouve Valérie Pécresse telle qu'on l'a connue. Et puis en fait, malgré ce rattrapage, il n'y a pas l'effet inverse dans les sondages et la dégringolade qui était un peu observée dans la foulée du Zénith s'est poursuivie. Alors, il y a une nuance, je trouve, qu'il faut vraiment apporter. Et c'est très clair quand on regarde les sondages et quand on regarde aussi ce qui s'est passé dans sa campagne depuis janvier, c'est que le décrochage ne date pas que du Zénith.
Absolument.
Il se passait quelque chose dans sa campagne depuis 2-3 semaines avant le Zénith, quelque chose qui s'était un peu abîmé dans la dynamique qu'elle avait derrière elle depuis le mois de décembre. Ça correspond à une période où peut-être le discours sur la sécurité qu'elle avait beaucoup mise en avant était finalement moins entendu. Il y avait des gens aussi dans sa famille politique qui lui reprochaient d'avoir un discours un peu trop technocratique. Je pense aux critiques que Rachida Dati avait formulées. Donc tout ça l'avait déjà un peu fragilisé en réalité dès la fin du mois de janvier.
Et d'ailleurs, puisque tu parlais du Zénith, et tu as raison de souligner que la dynamique plutôt à la baisse avait commencé avant le Zénith, c'est pour ça d'ailleurs que le Zénith avait autant d'importance pour elle. C'est-à-dire qu'il y avait un doute qui s'était installé, et le Zénith devait lui permettre de reprendre l'initiative, de reprendre de l'allant et d'inverser cette dynamique et de rassurer une partie des doutes qu'il y avait dans son camp. Et au fond, c'est pour des raisons de forme, de fond, bonne ou mauvaise, c'est plus le sujet, le Zénith a plutôt aggravé ou consolidé une tendance négative plutôt que de lui permettre de reprendre la main. Mais bref, ça, c'est de l'histoire passée. Elle a traversé, ou elle traverse, enfin, en tout cas, ces dernières semaines ont été très, très difficiles pour elle. Sans faire de la psychologie de bas étage, tu m'avais raconté d'ailleurs que dans l'un des déplacements en Vendée, elle avait parlé aux journalistes à part, et ce qu'elle fait pas forcément systématiquement, et elle vous avait montré son exaspération. Elle a, sans faire de la psychologie de bazar, elle a vécu un moment difficile. Est-ce que tu penses que elle en sort plus solide, ou en tout cas en ayant montré qu'elle était solide, ou elle est toujours aujourd'hui d'une certaine manière blessée, affaiblie par cette séquence des dernières semaines?
C'est difficile de le dire. Je pense que il y a quelque chose chez elle qui s'est un petit peu. Il y a pas forcément toujours la flamme qu'on observait chez elle dans les moments où, évidemment, dans sa campagne, tout fonctionnait bien. Je pense notamment au mois de décembre, hein, qui a quand même été une séquence dans la foulée de son investiture, qui avait été une séquence très favorable et où vraiment elle partait avec beaucoup d'atouts dans son jeu. Et c'est vrai que là, on observe que pour elle, c'est plus difficile. Et moi, par exemple, hier, je parle de flamme, c'est peut-être un peu excessif, mais quand je pense à son interview sur notre antenne chez Apolline de Malherbe, quand elle dit que finalement, elle observe que c'est difficile en ce moment parce que, eh bien, il y a le contexte international, évidemment, on va en parler, j'imagine. Il y a du coup ce réflexe, en quelque sorte, d'une forme de légitimité des Français par rapport au président de la République, à Emmanuel Macron. Bon, c'est vrai que quand on entend ça, on voit pas vraiment la candidate très battante qui disait toujours et qui répétait toujours qu'elle serait dans tous les cas de figure au second tour, qui s'y voyait et tout. Bon, là, on voit que on voit qu'on a perdu un peu ce côté-là, mais par contre, dans son entourage, il y a des proches qui continue à se dire attention, il y a encore des choses qui peuvent se passer, il reste 4 semaines de campagne, l'effondrement que certains disaient attendre n'est pas arrivé dans tous les sondages en tout cas. Donc voilà, il y a certainement aussi un peu de méthode couée là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'à droite, il y a beaucoup de gens qui doutent depuis le Zénith, ça c'est sûr.
Oui, et tu disais que la séquence de décembre, le mois de décembre avait été très favorable. Peut-être qu'à posteriori, et on verra quel sera son résultat au soir du premier tour, si elle est qualifiée pour le second tour, mais peut-être qu'à posteriori, on se dira que ce mois de décembre où elle a passé beaucoup de temps à refaire le tour des différents candidats, de la primaire interne, du congrès interne, pour aller les voir, essayer de montrer, de rabibocher l'unité de sa famille politique, a été un temps où elle n'a pas parlé directement aux Français, et peut-être du temps perdu dans cette campagne. Mais bon, ça c'est un autre débat. On parlait de la guerre, effectivement. Très honnêtement, quand la guerre, c'était pas évidemment notre préoccupation principale quand la guerre a été déclarée, de savoir quel effet ça aurait sur tel ou tel candidat. Mais au fond, on se disait, beaucoup se disaient, l'entrée en guerre va plutôt évidemment favoriser Emmanuel Macron dans les sondages. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puisqu'il y a un effet drapeau autour du président de la République en période de crise internationale. On l'a déjà vu dans le passé, donc c'est ce qui est en train de se passer dans les sondages, c'est très net. Mais on pouvait aussi se dire qu'il allait y avoir un effet négatif mécanique pour Marine Le Pen et Éric Zemmour, peut-être aussi pour Jean-Luc Mélenchon, mais que Valérie Pécresse, parce qu'elle est la candidate d'un parti de gouvernement qui a été au pouvoir pendant plusieurs dizaines d'années sous la Ve République, au fond, bénéficierait non pas d'un effet drapeau, mais d'un effet de parti sérieux, légitime, capable d'exercer le pouvoir. Et ça lui permettrait de marquer sa différence, par exemple, avec Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Et c'est pas exactement ce qui se passe dans les sondages. Au fond, comme si, je caricature, et peut-être que ces sondages seront démentis par le vote des Français dans quelques semaines, mais comme si, au fond, des électeurs de centre-droit qui hésitaient entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse s'étaient dit, dans une crise, mieux vaut peut-être garder ou consolider et encourager le président en passe plutôt que de changer de capitaine en pleine tempête. Et ça, moi, je n'avais pas forcément anticipé. Je pensais qu'elle bénéficierait indirectement aussi d'un effet légitimiste lié à l'invasion de l'Ukraine. Mais je me suis trompé parce que ce n'est pas ce que montrent du tout les sondages pour l'instant.
Son entourage a fait vraiment cette analyse hein, dans les jours qui ont suivi. Alors bien sûr, ils ont beaucoup mis en avant un esprit de responsabilité. Elle a à plusieurs reprises affirmé son soutien aux tentatives de médiation d'Emmanuel Macron, aux sanctions qui ont été prises par la France qui préside l'Union européenne et avec les alliés européens. Donc là-dessus, c'était une différence parfois par rapport à certains propos d'autres de ses adversaires. Mais c'est vrai que il y avait aussi cette mise en avant du côté ça y est maintenant les masques sont tombés, ça c'est un élément de langage comme on dit qui revenait beaucoup à droite. Les masques sont tombés, on va voir que eh bien c'est notre position, notre possibilité d'agir avec responsabilité qui va être mise en avant par rapport au discours qui avait été parfois trop conciliant avec la Russie de Vladimir Poutine du côté d'Éric Zemmour, du côté de Jean-Luc Mélenchon et du côté de Marine Le Pen. Elle arrive, Valérie Pécresse, avec cette stature internationale, aussi la stature dont dispose un peu sa famille politique. Elle arrive, par exemple, à se rendre à l'ambassade d'Ukraine, à s'entretenir avec l'ambassadeur d'Ukraine quelques heures avant l'entrée en guerre de la Russie. Elle arrive toujours à organiser ce genre d'événement que les autres ne peuvent pas forcément organiser. Mais tout ça.
Ou alors il y a quelques heures au siège des Républicains à Paris, il y avait une réunion du PPE, le Parti Populaire Européen, qui rassemble les partis conservateurs européens. Et donc à cette occasion, Valérie Pécresse a pu s'entretenir avec des représentants de la droite européenne, dont la présidente du Parlement européen, dont Donald Tusk, un ancien responsable ancien responsable polonais, mais aussi des institutions européennes, et un certain nombre de chefs de gouvernement de différents pays. Et ça, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni Jean-Luc Mélenchon ne peuvent le faire, même si Marine Le Pen aussi s'est affichée il y a quelques semaines avec les premiers ministres polonais et hongrois. Mais on voit qu'il y a aussi la force d'un parti implanté, qui a des racines et des liens avec d'autres pays européens. Et elle pourrait en bénéficier. En tout cas, ça assoit une forme de légitimité et de crédibilité.
Tout à fait, mais tu as raison de dire que ça s'est pas exactement passé comme il l'avait dit, c'est-à-dire que malgré cet avantage en termes de stature, malgré cet esprit de responsabilité qu'elle mettait beaucoup en avant, on a bien vu que il y avait quelque chose qui se passait du côté d'Emmanuel Macron avec un effet drapeau comme on dit dans les sondages, et puis peut-être aussi, ça leur a permis, à droite, certains se disent, est-ce que finalement, là, on découvre pas aussi les limites de la stratégie qu'on avait mis en place en décembre et en janvier, c'est-à-dire d'aller chasser sur les terres d'Éric Zemmour et d'aller essayer de faire revenir ces électeurs de droite qui étaient partis vers Éric Zemmour. Est-ce que finalement, il n'y avait pas parfois plus de gens à aller chercher au centre-droit, un centre-droit qui s'est dirigé plutôt vers Emmanuel Macron. Quand on entend ça aujourd'hui, on se dit que c'est assez fou parce que c'est vraiment c'est une analyse totalement différente de celle que certains à droite faisaient dans la foulée de la victoire de Valérie Pécresse.
Puisque tu parles d'Éric Zemmour, il y avait un débat ce soir sur TF1 entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. C'était un moment qui était attendu sur lequel misait Valérie Pécresse. Qu'est-ce que tu en as pensé, je pense notamment à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, j'ai trouvé que c'était, en tout cas, toute la première partie sur TF1 était assez difficilement audible à certains moments, puisque ça donnait une image assez... en tout cas, c'était pas un débat très civil, pour reprendre l'expression qu'utilisait Gilles Boulot sur le plateau lorsqu'il leur demandait un peu de civilité. Qu'est-ce que tu en as pensé? On sait qu'elle a été plutôt... Dans le débat interne du Congrès, elle avait marqué des points dans les deux premiers débats, notamment le débat sur BFM TV. Elle avait marqué des points. Elle est plutôt bonne en débat. Qu'est-ce que tu as pensé de ce débat ce soir ?
Je trouve que, comme quoi, il faut toujours se méfier un peu parfois des intuitions ou des discussions qu'on a dans les états-majors, parce que, pour le coup, je trouve que c'est pas du tout le débat que j'attendais. Valérie Pécresse a été très offensive tout de suite contre Éric Zemmour dès les premières secondes. C'est pas forcément. Alors, on sait qu'elle sait le faire. Évidemment, elle a de l'expérience politique. Valérie Pécresse, hein, elle a une carrière politique ancienne déjà, donc elle peut comme ça défendre des positions. Mais c'était pas certain qu'elle fasse ce choix-là dès le départ. Et de la même façon, Éric Zemmour, là où parfois sur certaines apparitions télévisées récentes, il est apparu avec un peu plus de un ton plus policé que celui qu'il avait parfois employé. Là, pour le coup, lui, il est revenu plus enfin, en tout cas, je trouve au basique de sa candidature et au ton qu'il avait employé en novembre ou en décembre quand il s'est
Ouais.
lancé. Donc, c'était assez étonnant. Ça a donné en effet une impression parfois de débat tendu où on n'entendait pas toujours les arguments de l'un et de l'autre. C'est difficile de savoir vraiment ce que les gens en auront retenu. Ce qui est sûr, c'est que pour l'entourage, je pense que pour l'entourage, pour les soutiens de Valérie Pécresse, il y a là aussi un peu matière à se rassurer. C'est-à-dire que eux,
Ouais. Oui, je pense aussi, ouais.
ils continuent de miser énormément sur les débats parce qu'ils savent que c'est un exercice où Valérie Pécresse, le mot est peut-être un peu excessif, mais elle s'est un peu révélée dans ces exercices-là au moment au moment du congrès.
Elle
Et
s'est
donc
distinguée, en tout cas,
elle s'est
ouais.
distinguée, voilà, c'est plus juste. Et là, certainement que ce soir, il y a des républicains qui ont vu que
Ouais.
elle en avait encore sous le pied et que
Oui,
malgré les
absolument.
difficultés, elle était en capacité encore de résister à un adversaire qui est un orateur très talentueux, qui peut être un peu imprévisible, hein, bien sûr, dans ce genre d'exercice. Donc là-dessus, voilà,
Oui.
c'est quelque chose qu'elle a bien réussi à jouer, même si la posture aussi de La posture d'être dans l'offensive, dans le ton offensif dès le
Oui.
début, était aussi un risque qu'elle prenait.
Moi, j'ai trouvé que y a eu cette dernière semaine, à tort ou à raison, de façon juste ou injuste, c'est pas le sujet, mais il y a eu des interrogations autour de ses prestations importantes, des moments où, donc le Zénith, mais aussi à d'autres moments où je pense notamment à sa déclaration solennelle après l'annonce de la candidature, la confirmation de la candidature d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Elle avait fait une allocution solennelle et il y avait des doutes sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire sur la forme, elle semblait parfois. Comment dire, il y avait une emphase qui sonnait parfois à certains moments un peu faux. En tout cas, il y avait quelque chose autour de la justesse qui était assez problématique pour certains. Je ne parle pas de sa voix, hein, je parle vraiment du ton qu'elle adoptait à tel ou tel moment. Et sur le fond, il y avait aussi des doutes sur quelle est sa ligne, qu'est-ce qu'elle dit, à qui elle s'adresse. Et là, j'ai trouvé que ce soir sur TF1, même si, comme je te disais, le débat était au début un peu, il y avait un peu de brouhaha et c'était difficile à suivre. Mais à la fois sur la forme et sur le fond, c'était plus clair, c'est-à-dire qu'elle était pugnace, mais pas agressive, c'est-à-dire qu'elle voilà, elle était pugnace, c'était vraiment un débat qu'elle jouait à fond, elle n'était pas passive et elle prenait pas les coups. En tout cas, elle laissait pas seulement les coups sans répondre. Et puis par ailleurs, sur le fond, elle avait une ligne qui me semblait plus claire, plus cohérente que ce qu'on a parfois entendu dans certaines de ses interventions ces semaines dernières. Et au fond, elle était plus en ligne avec ce qu'elle est, quoi. Et d'ailleurs, j'ai échangé pendant le débat avec un de ses très proches pour lui demander ce qu'il en pensait. Il m'a répondu, bah, ce soir, elle est elle-même, quoi. Et c'est la première fois, selon lui, que quelqu'un résistait à Éric Zemmour pendant cette campagne. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le cas parce qu'il y avait eu un débat il y a quelques mois avec Jean-Luc Mélenchon aussi sur BFM TV où Jean-Luc Mélenchon avait répondu de façon vigoureuse à Éric Zemmour. Mais effectivement. Elle ressort plutôt, moi il me semble, plus elle marque plutôt des points, je pense, dans ce débat sur TF1, ça face à Éric Zemmour. Même si dans les sondages et dans plusieurs sondages, Éric Zemmour et Valérie Pécresse sont aujourd'hui quatrième et cinquième. Donc au fond, aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne sont les favoris pour accéder au second tour, quoi. Mais bon.
Oui, c'est sûr que ça, c'est un constat que ces deux candidats peuvent partager. Même si certains chez les Républicains observent beaucoup dans les sondages un éventuel abaissement dans certains sondages du seuil de qualification au second
Oui,
tour
absolument.
et se disent peut-être que là, encore une fois, on a vraiment des cartes à jouer. Est-ce qu'on arrive à faire des débats qui sont réussis? Est-ce qu'on arrive à reprendre la main sur certains thèmes? Eh bien, peut-être que à force à force d'acharnement, on arrivera à grappiller quelques points dans les sondages, même si objectivement, c'est pas trop ce qu'on observe encore une fois ces derniers jours dans les dernières études.
Pour résumer un petit peu et de façon un peu caricaturale, certains s'attendaient à ce que Valérie Pécresse morde la poussière et s'effondre, qu'elle soit pulvérisée dans ce débat par Éric Zemmour. Ça n'est pas le cas. Elle se bat et elle essaye de rebondir. On résume comme ça ?
C'est plutôt un bon résumé. Même si s'il y a beaucoup de difficultés dans la campagne de Valérie Pécresse et qu'il va falloir en effet qu'elle continue à se battre pour essayer de rester en position peut-être d'être au second tour ou d'avoir une troisième place honorable à la fin.
Ouais. On se retrouve dans un épisode dans quelques jours.
Avec Salut, plaisir. Alexis. Salut Philippe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain.